France Culture.
Vous avez vu la lune ou pas? Une énorme lune. Incroyable. Je fais un petit peu d'audio description du ciel pour nos auditeurs.
Bonjour.
Bonjour.
France Culture.
C'est la radio.
Le Book Club.
Vous avez traversé Paris alors. D'ouest en est.
Littéralement.
Bah oui.
Peut-être que je sais pas si vous avez l'occasion de la voir, mais il y a une lune.
Oui. Il y a une lune extraordinaire. Oui. On dirait qu'elle est dessinée.
Dans la bibliothèque de Dominique Cabrera.
Entrez, je vous en prie.
Déjà, le soir qui tombe, j'ai allumé.
Ça manque un peu de lumière ici, mais bon.
Marie Richeux.
Avec les yeux du cœur.
Dominique Cabrera réalise des films depuis plus de 40 ans. Il y a beaucoup de réel dans ses films, on les dit documentaires, mais ils sont aussi très écrits, parfois même très romanesques, quand il ne s'agit pas clairement de fiction. Toujours est-il qu'il s'agit souvent d'y attraper quelque chose de l'existence, de comment on se débrouille avec, qu'est-ce qu'on y tisse, qu'est-ce qu'on brode. Chronique d'une banlieue ordinaire, Grandir, Le lait de la tendresse humaine, ça c'est pour vous donner quelques titres. Quand on arrive chez elle, soir glacial de quasi pleine lune, on trouve d'abord des livres sur la broderie, qui sera au cœur de son prochain film, et puis des livres de recettes. Dans la cuisine, justement, on aperçoit les textes qu'elle a choisi de partager, quelques post-it et des notes. Parce qu'accepter cet exercice alors qu'on est en train de préparer un film, c'est vouloir le faire vraiment, c'est prendre la chose à cœur. Et c'est cela qu'on a senti en écoutant la cinéaste parler de ses lectures. C'est une histoire sérieuse, quelque chose de nécessaire, de décisif, les livres. Et puis, nous allons monter à l'étage, dans la pièce qui leur est consacrée, aux livres. Pendant longtemps, ce fut là une bibliothèque partagée. Et puis, nous allons voir les piles près du lit. Et puis, nous redescendrons boire du romarin chaud. Ce portrait de bibliothèque ressemble au film que fabrique Dominique Cabrera, qui lui ressemble aussi.
C'est peut-être du chaos né une étoile dansante, on l'espère. Alors, déjà là, on est dans la cuisine.
Ouais.
Bon, là, il y a quelques livres là, que j'ai pris pour réviser,
ouais.
Mais il y a toujours un peu de livres, parce que c'est soit les livres que je suis en train de lire, soit des livres tiens, que j'ai ressortis. Alors là, par exemple, là, il y a des livres de cuisine. Je lis beaucoup.
Beau,
je lis beaucoup de livres de cuisine, en fait, ou de recettes de cuisine la nuit.
Ok, bon, plutôt que de dormir.
Oui, enfin, c'est parce que je ne dors pas.
Voilà,
vie.
Ok.
Voilà,
vous préféreriez dormir ?
Ouais, franchement, oui.
Ça, c'est très beau.
C'est un livre de cuisine grecque. Voilà, c'est évidemment Yotam Ottolenghi.
Ouais.
Là, il y a des livres.
Livre.
Ah, ça, c'est merveilleux.
Fabienne
Hiver.
Ouais. Elle a écrit un livre qui dit « C'est nul d'être pauvre » ou quelque chose comme ça.
Oui, oui. Et là, c'est les injonctions qu'on fait aux femmes.
Mais brodé, voilà. Sur des...
Brodé,
pas brodé,
oui.
Non, c'est comment ça s'appelle?
Si, c'est... En fait, c'est du point de croix.
Ouais.
Le vernis à ongles, c'est pour les feignasses. On gagne pas son pain sur le dos. Les talons, c'est bon pour les grues. Donc, elle a... J'adore ce que fait Fabienne Hiver.
Oui,
elle a collecté des mots, des mots indifférents, enfin, de la banalité,
ouais.
Et puis aussi des injonctions épouvantables qu'on fait aux femmes. Tu ne peux pas faire comme tout le monde ? Où est-ce que tu te crois ?
Ouais.
Ça sonne familier. Alors là, en fait, c'est le film que je prépare sur la broderie. Voilà, c'est des livres de broderie, quoi. Alors, ça ne se prête pas trop à la lecture. Carole Benita, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment génial.
Ouais.
Ouais. Très beau. Alors, Carole Benita, elle a brodé. Là, je ne l'ai pas, je crois. En fait, le problème que j'ai, c'est que je prête ou je donne les livres que je préfère.
Ouais, vous allez pas l'avoir, hein.
Et voilà. Donc, mais ça, je l'aime beaucoup, ce livre de Carole Benita. Bah oui, ça, Langue de coton aussi, c'est super. Livre sur la broderie. Bon, Carole Benita, elle a brodé des photos des photos familiales en révélant par la broderie comme quelque chose qui serait caché dans les photos.
Mmh.
C'est extraordinaire.
Mmh.
C'est une des choses qui m'a inspirée pour mon film.
Dans
une expo. Elle est morte l'année dernière, malheureusement. Bah, tiens, ah voilà, c'est ça. Ah bah, il est là.
Mmh.
Le livre de Carole Benita. Vous devez connaître, c'est... Regardez.
Ça me fait penser aussi à Deveau. Non, comment elle s'appelle ?
Oui.
C'est ça ?
Oui, Amélie Deveau.
Ouais, c'est
oui.
Ça, ouais.
Voilà, Carole Benita. Regardez, c'est génial.
Oh.
Là, c'est une cage qui enferme une famille, comme une cage d'oiseaux.
Wow, c'est hyper beau.
Ça, regardez, c'est sublime. C'est des photos d'elle, en fait.
Alors là, donc là, c'est mon bureau.
Ok.
Alors dans ce bureau, bah, c'est un bureau, quoi, bureau de production, bureau de travail, mais en fait, il y avait une bibliothèque dont on voit des reliefs,
ouais.
Bibliothèque de cinéma. Donc là, il y avait mes livres de cinéma. Il y en a quelques-uns, mais on voit qu'ils ont été petit à petit chassés par les dossiers.
C'est vrai.
Voilà. Donc, bon. Mais il y en a encore beaucoup. Voilà, ça continue dans les livres de cuisine.
Et que vous lisez et vous cuisinez ?
Oui, oui, ouais. Je cuisine aussi quand même. Je ne me contente pas de lire. Mais c'est vrai que j'adore lire des recettes. Je ne sais pas, il y a quelque chose de rassurant, d'amusant. C'est comme des poésies, puis en même temps, on sait faire. Enfin, j'aime beaucoup. Alors là, il n'y a pas de livre dans cette pièce.
Okay.
C'est une salle de montage. Il y a des DVD dans les tiroirs, mais il n'y a plus de livre.
Et on vous suit ?
Oh ben oui.
Ok, allez.
Alors donc là, on monte l'escalier. Et là, ma chambre. Et donc, dans ma chambre, en fait, c'est ma chambre, il y a des livres aussi. C'est les livres que je suis en train de lire.
Mais celle-ci, c'est une pièce qui est vraiment
oui,
consacrée aux livres.
Elle a d'abord été consacrée aux livres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... voilà, on voit qu'il y a une sorte d'entassement qui rend la consultation de la bibliothèque assez complexe. En fait, j'ai... Bon, dans cette pièce... Dans cette pièce, mon mari est mort dans cette pièce. Et c'est vrai qu'après sa mort, j'ai eu du mal à revivre dans cette pièce, même si c'était une forme de beau souvenir. Mmh. Et j'ai laissé une sorte de désordre, parce que j'ai logé en fait plusieurs personnes dans cette pièce. Oui, je l'ai prêtée aussi pour un film. Et voilà, voilà le résultat.
Mais vous continuez à consulter votre bibliothèque ?
Ben, oui. Mais en fait, quand une bibliothèque n'est pas du tout rangée, alors il y a des bouts de rangement, là, on voit qu'il y a un peu des bouts d'ordre alphabétique.
Ok.
Mais c'est pas évident de... Il y a eu des périodes où cette bibliothèque a été très rangée, et puis là, il y a des strates qui se mélangent, quoi.
Elle l'était comment quand elle était rangée ?
Par ordre alphabétique,
d'accord,
en fait.
Ok.
Ordre alphabétique, puis il y avait un peu de poésie, théâtre...
Et voilà. Cette pièce était déjà une bibliothèque avant la mort de votre mari.
Oui, oui, ben, c'était plutôt une bibliothèque.
C'était une bibliothèque.
Oui, c'était notre bibliothèque.
La bibliothèque. Ouais.
Oui, c'était notre bibliothèque. Il y avait ses livres, les miens. Enfin, ils y sont toujours, mais ils sont dans une forme de mélange. Voilà. Là, par exemple, là c'est pas l'ordre alphabétique, c'est la collection Nelson. En fait, il n'y avait pas tellement de livres chez moi. Enfin, il y en avait quand j'étais enfant. Il y avait pas mal de cette collection, en fait, qui est une collection populaire, je pense, d'avant-guerre, qui était chez mes grands-parents et dont mon père collectionnait les... C'est super beau, en fait. C'est une collection... Voilà, c'est dans cette collection que j'ai lu Alexandre Dumas.
Mmh.
C'est très beau et en même temps, c'était banal, quoi. Mmh. C'est merveilleusement imprimé. C'est précieux et,
ouais, c'est hyper
et,
beau.
Et en même temps très...
Usuel, quoi.
Oui, oui, oui.
Et là, c'est quoi ? Parce que donc là, si je jette un coup d'œil très rapide, c'est plutôt du roman, je dirais.
Oui,
de ce
c'est
côté-là.
Un peu mélangé, quoi. Là...
Moi, je vois apparaître Trafic plusieurs fois.
Oui, c'est vrai, il y a des livres de cinéma.
Ouais.
Bah, il y a une partie des livres de cinéma qui étaient dans mon bureau.
Qui ont migré ici.
Qui ont migré ici,
okay.
Et qui se sont mélangés aux autres, quoi. Kiarostami.
Voilà, Matériaux de Pedro Costa, par
oui,
exemple,
voilà.
Jean Renoir.
Ah oui, 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 beaucoup de choses. Il y a une chose, un livre que j'ai recherché, puis qui n'était même pas en librairie, que j'adore de Renoir, les romans de Renoir. Et puis les souvenirs qu'il a écrits à propos de son père. Auguste Renoir, mon père, j'avais envie de vous le lire, puis je ne l'ai pas trouvé à temps.
J'ai tournée la tête et je suis tombée sur Jean Renoir, je me suis dit, waouh, wow, Marie,
ah,
non mais non,
les
cahiers du capitaine Jean.
Ah, ça c'est génial.
Mais quand même, je me suis dit, ça aurait été formidable.
Renoir a écrit plusieurs romans, dont celui-là, les cahiers du capitaine Georges, et un autre qui s'appelle Geneviève, qui sont vraiment extraordinaires. Ah, je suis contente que vous ayez vu celui-là. Bah, moi, je vais le relire.
Bah, c'est ça, ça sert c'est à bien. Ça quand même, une bibliothèque, même ah, en bah, bazar. À laisser traîner ses yeux comme ça, quoi.
Totalement, totalement, j'adore. Et là, c'est vrai que j'ai souvent tendance à racheter des livres.
Et vous lisez beaucoup ? Ça fait partie de votre vie ?
Oui, alors, oui, j'ai beaucoup lu.
Bah ça, voilà, cette pièce en témoigne.
Ça, oui, et puis il y en a plein d'autres. J'ai beaucoup lu. Là, aujourd'hui, comme beaucoup, je pense que c'est une lutte, en fait. C'est-à-dire que, comme beaucoup, je vois bien que mon esprit, mes heures sont colonisées par les réseaux sociaux.
Quoi. Ah oui ?
Ah oui, je lutte pour lire.
Mais vous
pour
avez pas être quoi aspirée. Comme activité sur les réseaux sociaux, Dominique Cabrera ?
Non, mais... lire, scroller, ouais. Regarder, voilà, comme beaucoup, hein, c'est quelque chose... j'emploie le mot colonisation à dessein. Mmh. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Mmh. C'est vraiment de ça, c'est pour ça que c'est tellement captivant. C'est une activité qui est au-delà de... Comment dire ça ? C'est au-delà de ce qu'on y trouve. On y participe. Mmh. Et donc, en fait, pour moi, lire, c'est aussi ne pas y aller. Mmh. Et c'est vraiment, c'est pas simple en fait. C'est vraiment une addiction, enfin vous le savez bien. Hein. Et je pense qu'on est beaucoup à le vivre. Et peut-être qu'en l'analysant comme une colonisation, on peut peut-être essayer de s'en défaire. Ouais. Mmh. Mais c'est très compliqué. Hein. Ça vous atteint pas ?
Plutôt assez raisonnablement en vrai.
Moi j'aimerais récupérer mon cerveau d'avant Internet. Je suis captive. Mais je lutte, voilà, je lutte vraiment. Je vais au cinéma aussi en face, au Méliès. Et puis je lis, j'achète des livres.
Là, il y a un peu plus de théorie. Enfin, je sais pas, je tombe sur Pinceau Charlot, je tombe sur...
Oui, il y a aussi Charles Trenet, les chansons.
Et Véro, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
C'est un peu mélangé.
Il y a du théâtre, ouais, Truffaut, il y a de la poésie, il y a... C'est dingue, j'ai lu tous ces livres, hein, quand même.
Oui, s'ils sont là, c'est que vous les avez lus.
Quasiment, oui, ouais. Quasiment. Bon, celui-là, par exemple, je ne l'ai pas lu. Paul Jean Toulet, je pense que c'était un livre qui était à mon mari Didier. Mais sinon, la plupart, ouais, c'est fou. Hein. Il m'en reste sûrement quelque chose, mais en même temps, il m'en reste pas. Ah oui, ça, c'était formidable. Ouais. C'est la biographie de Daniel Cordier. Ouais. Mais la plupart, je les ai aimés, disons. Bernard Maris, tiens, qui a été tué. Ça, c'était vraiment génial. Anti-manuel d'économie. Bernard Maris, c'était quelqu'un qui a vraiment eu le don pour faire exister l'alternative.
Ça, ça fait partie de la petite collection de tout à l'heure.
Oui, la collection Nelson. Beau, hein. Et ça, c'était Victor Hugo. J'ai les livres de Proust que j'avais.
Ah oui, quand vous dites qu'il y a quelques livres dans ma chambre, c'est que votre table de chevet est envahie de bouquins.
Oui, c'est ça, parce que
on entre.
La bibliothèque, je vous en prie.
Merci.
Comme la bibliothèque est tellement mélangée, là, c'est des livres que j'ai rachetés, en fait, où j'ai exhumé.
Là, vous voyez Proust, Albertine disparue, c'est. Je pense que c'est l'édition, 77. Donc j'ai 20 ans.
C'est l'édition que vous avez lue, quoi.
Non, je pense que c'est après, en fait. Ah non, remarquez, Noël 77. Non, c'est ça. Mmh. C'est ça, je pensais que c'était plus tôt. Non, c'est ça, j'avais demandé ça à Noël.
C'est chic.
Ouais, c'était super. Enfin bon, vous voyez, c'est...
Ah oui,
en fait, là, c'est plutôt là, ma bibliothèque. Ça, La langue des oiseaux, j'ai adoré.
Claudine Hunsinger, ouais.
Oui, Vinciane Després, Autour des morts. Ça, j'ai beaucoup lu les livres sur le deuil, la mort, etc. Et là, c'est un truc extraordinaire, vous connaissez.
Oui, les livres de Vinciane Després,
ouais. C'est vraiment merveilleux, où elle se demande... En fait, si on ne croit pas que les morts continuent d'exister après leur mort, pourquoi est-ce qu'on fait des choses en pensant à eux ? Donc elle fait une sorte de collection de tout ce qu'on fait, comme si les morts n'étaient pas complètement disparus. Quoi. C'est vraiment totalement génial. Et ça m'a beaucoup inspirée pour le film que je suis en train de faire là. Bon voilà, donc j'entasse des livres au pied de mon lit, hein, comme beaucoup.
comme
et puis de temps en temps, je vais les mettre à côté.
Dans la bibliothèque, voilà.
Voilà, c'est ça.
Rien que de très habituel, je vous le
C'est ça, j'adore.
Bah, on va lire les extraits des livres que vous avez choisis
si
pour
vous
nous.
Voulez, d'accord. Ouais. Allons-y.
On vous laisse passer devant.
Oui, d'accord.
Même le... Comment ça s'appelle ? L'applique de lumière, on dirait un livre.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. J'avais jamais
ouvert.
Pensé à ça. Oui, c'est vrai, c'est comme il se déplie,
comme
c'est
un
sort d'accordéon.
Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Dominique Cabrera. Marie Richeux.
Avoir une bibliothèque, c'est énorme, en fait, déjà, tout simplement. Avoir une bibliothèque. Moi, je me souviens très, très bien de la première fois où j'ai été dans une bibliothèque. Quand j'étais enfant, c'était à Beauvais, et c'était la bibliothèque municipale, et je me souviens de... de mon éblouissement, de mon étonnement, j'avais trouvé ça extraordinaire, tout simplement, que ça existe, et que je puisse entrer là-dedans, avoir une carte, et prendre tous les livres. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai pris des livres au hasard. J'ai pris des livres au hasard, et puis voilà, une chose entraînant une autre, et j'ai pris énormément de livres, et il y a beaucoup de livres. D'ailleurs, j'ai arrêté d'être dans une bibliothèque, parce qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à les rendre.
Ah oui.
Je l'ai gardé.
Oui,
et ça ne va pas du tout.
Il fallait les acheter, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais l'idée des bibliothèques, j'adore. Ouais. Moi, je me souviens de... J'ai énormément adoré lire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vraiment eu envie, alors que ce n'est pas tout à fait le moment, là, pour moi. J'ai vraiment désiré vous dire oui, parce que ça a été peut-être la chose la plus importante pour moi, lire et écrire. Et je me souviens tellement de l'abolition du temps dans la lecture. Commencer un livre, soit en soirée, puis le finir dans la nuit, ou commencer l'après-midi quand j'étais enfant et finir dans la nuit. Enfin, oublier le temps qui passe, être plongé dans un livre. Et ça m'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, malheureusement. Moi, je fais beaucoup de choses, évidemment, mais c'est très difficile d'installer cet espace de liberté, en fait, qu'est la lecture.
Mais pourtant, vous faites des films. Et ça, c'est bien une temporalité très longue de faire des films.
Oui, bien sûr, mais c'est différent. C'est pas une temporalité pour soi, en fait. Quand on fait un film, on est dans un travail avec d'autres. On est tout le temps en relation avec... Enfin, tout le temps, on est beaucoup en relation avec d'autres. Alors que dans la lecture, on est en relation avec d'autres, mais sur un plan abstrait. Sur un plan intérieur, quoi. C'est vraiment autre chose comme rythme, comme manière d'être au monde, quoi. Enfin, c'est pas un problème qui m'est propre. Hein.
Alors on s'est arrêté.
Alors,
enfin,
vous
êtes arrêté.
Voilà.
Sur 5.
Il y avait 1000 choses à choisir, et donc voilà, que choisir. Voilà, j'ai fait des choix comme ça.
À regret.
Pas du tout,
non.
Non, pas du tout, mais non, j'aime ce que j'ai choisi, mais en même temps, il y a tellement de choses à choisir. En fait, je me suis demandé qu'est-ce que je lisais encore, en fait, plutôt, par rapport à tous ces livres que j'ai tellement aimés. Parfois, quand je tombe à nouveau sur un de ces livres, je me mets à le lire et ça s'arrête pas. Il y en a bien beaucoup comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des livres dans lesquels je suis encore au point de pouvoir trouver des passages. C'est ça, en fait, qui fait qu'on est dans une lecture toujours au présent. Donc, c'est vrai qu'il y avait Annie Ernaux. Et en fait, quand j'ai réouvert ce livre d'Annie Ernaux, qui est le quarto où il y a tous ces livres, enfin une bonne partie, écrire la vie, ben j'étais à l'aise en fait dans ces pages. Je voyais où trouver des passages à lire et quels passages je pouvais avoir plaisir, enfin qui pouvaient raconter quelque chose. Voilà, donc il y avait Annie Ernaux. Et puis je me suis... Alors, il y a un auteur qui a été très important pour moi, Nathalie Sarraute. Mais là, je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque de livres de Nathalie Sarraute, et à la librairie d'à côté, il n'y en avait pas. Et je me souviens de quelque chose qui était tellement important pour moi, qui était le collage dans les livres de Nathalie Sarraute de la poésie, du monde intérieur et des mots de tous les jours. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été une découverte pour moi en littérature. Enfin, quelque chose qui était une voie nouvelle. C'est quelque chose d'ailleurs que Annie Ernaux, à sa manière, a continué à faire. Et j'ai vraiment adoré quand je l'ai lu, quoi.
Oui, on commence avec un extrait des années. Parce que oui, ça faisait si partie, c'était ça.
Alors, les années, j'ai choisi la fin. En fait, évidemment, il y a quelque chose, je ne suis pas la seule d'ailleurs, d'extraordinaire pour moi quand je lis Annie Ernaux, en plus évidemment de son génie, quoi. C'est le sentiment d'une vie parallèle à la mienne. Voilà. C'est assez troublant. Quand elle désirait écrire autrefois dans sa chambre d'étudiante, elle espérait trouver un langage inconnu qui dévoilerait des choses mystérieuses à la manière d'une voyante. Elle imaginait aussi le livre fini, comme la révélation aux autres de son être profond, un accomplissement supérieur, une gloire. Que n'aurait-elle pas donné pour devenir écrivain ? De la même façon qu'enfant, elle souhaitait s'endormir et se réveiller Scarlett O'Hara. Par la suite, dans des classes brutales de 40 élèves, derrière un caddie au supermarché, sur les bancs du jardin public à côté d'un landau, ses rêves l'ont quitté. Il n'y avait pas de monde ineffable, surgissant par magie de mots inspirés. Elle n'écrirait jamais qu'à l'intérieur de sa langue, celle de tous, le seul outil avec lequel elle comptait agir sur ce qui la révoltait. Alors, le livre à faire représentait un instrument de lutte. Elle n'a pas abandonné cette ambition, mais plus que tout maintenant, elle voudrait saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies. Cette lumière qui était déjà là, dans les récits des dimanches d'enfance, et n'a cessé de se déposer sur les choses aussitôt vécues, une lumière antérieure. Sauver le petit bal de Bazoches-sur-Ouenne avec les autotamponneuses, la chambre d'hôtel rue Beauvoisine à Rouen, non loin de la librairie Le Pouzet, où Kayat avait tourné une scène de Mourir d'aimer. La tireuse de vin au carrefour de la rue du Parmelan, Annecy. Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. Le manège du parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains, la toute jeune femme en manteau rouge qui accompagnait l'homme titubant sur le trottoir qu'elle était allée chercher au café Le Duc Éclin en hiver, à la roche posée. Excusez-moi, c'était le film des gens sans importance. L'affiche à demi déchirée, 3615 Ulla, au bas de la côte de Fleury-sur-Andelle. Un bar et un jukebox qui jouait Apache, Atali au corner, Finchley. Une maison au fond d'un jardin, 55 avenue Edmond Rostand à Villiers-le-Bel. Le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre. L'homme en pyjama et chaussons, tous les après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise, qui pleurait en demandant aux visiteurs d'appeler son fils, en tendant un bout de papier sale où était écrit un numéro. La femme de la photo du massacre de Hocine, Algérie, qui ressemblait à une Pietà. L'éblouissant soleil sur les murs de San Michele depuis l'ombre des Fondamenta Nueve. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. voilà, ben...
Bah, on commence fort, du coup.
Tout est dit. Tout est dit, oui, c'est tellement... Voilà, c'est tellement génial. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça, hein?
Je sais pas pourquoi vous avez choisi la fin de ce texte.
Bah, parce que, justement, tout est dit, là. Oui. Tout est dit de ce qui compte pour moi, et évidemment pour elle, hein. Et... Mm. Mais oui, tout est dit. Bah, juste avant, elle le dit d'ailleurs. Ce qui compte pour elle, c'est au contraire de saisir cette durée qui constitue son passage sur Terre à une époque donnée, ce temps qu'il a traversé, ce monde qu'elle a enregistré rien qu'en vivant. Mmh. Bah, c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce qu'elle a fait merveilleusement.
Parce que voilà. C'est un texte qu'elle fait paraître en 2008 et qui s'appelle Les années, où il y a quand même un geste en effet d'embrasser une époque, plusieurs époques.
Oui, embrasser sa propre vie à travers une époque. Ouais. Et au fond, là, je vois bien que dans les choses qui m'ont intéressée, que j'ai plus ou moins choisies, là, pour vous, comme c'est ce qui m'a intéressée, moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire à ma manière, ben, j'ai cherché, en fait, dans les autres. Dans celles qui l'ont... Beaucoup celles, mais il y a aussi des hommes qui l'ont fait. Mais il y a beaucoup des femmes qui ont essayé de le faire, en fait. C'est-à-dire de se saisir en même temps qu'une époque. Mmh. Ou de saisir un personnage en même temps qu'une époque. En saisissant les manières de parler, les manières de... Ben là, c'est ce qu'elle fait. Hein. Mmh. La vie ordinaire d'une époque et en même temps la vie extraordinaire de chaque être. Mmh. Voilà, alors bon...
Moi, pour avancer dans vos choix, parce que ça va être mon rôle, Dominique Cabrera, j'aurais envie d'aller vers Violette Leduc et Ravage.
En fait, je me suis dit qu'il fallait... C'est-à-dire que là, j'ai donc acheté la nouvelle édition de Ravage, et je me suis souvenu la révélation que ça avait été pour moi de lire Ravage et de lire La bâtarde, attendez,
bâtarde,
oui c'est ça,
sûr.
La bâtarde. Ouais, ouais. J'avais commencé par La bâtarde de Violette Leduc.
Donc première parution 1955, mais c'est une parution qui est, comment on appelle ça, censurée, voilà.
Censurée, ouais. Évidemment, on le voyait dans l'édition que j'avais lue par beaucoup de petits points, mais je me rendais absolument pas compte, évidemment, de ce qui avait été coupé. Et au fond, c'est une écriture qui n'est pas la même que celle d'Annie Ernaux, mais... Il y a quelque chose de très, très voisin qui est faire face au monde qui est là et par l'écriture, donc par autre chose que le réalisme et en même temps par le plus profond du réalisme, essayer d'en saisir et d'en ramener quelque chose, quoi. Mmh. Alors, dans cette nouvelle édition qui est magnifique, les passages censurés sont en mauve, donc on les voit très bien.
Ça, je me souviens,
on les voit très bien. Et les passages, les autres, quoi, sont en noir. Enfin, les passages que j'avais lus sont en noir. Et là, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est une déclaration, en fait. C'est au début du livre. Alors, le livre, c'est un voyage entre ses amours. Mmh. D'ailleurs, au fond, Annie Ernaux, Violette Leduc, même Elsa Triolet, là, que j'avais choisie, Colette, Sei Shonagon. En fait, c'est des écrivains qui ont cherché à saisir leur propre vie, en fait. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose d'autobiographique dans ces livres. C'est donc un voyage entre ces trois amours. Là, c'est le premier amour, Isabelle. Vers 7 heures du soir, des élèves m'entourèrent, proposèrent une promenade, des bavardages. Je bégayais, je me séparais d'elle sans l'avouer. Je n'étais pas libre et j'avais changé d'âge. Je m'ai pétrifié. Isabelle rangeait ses livres. Isabelle était proche. Les fantômes et leurs offres s'en allèrent à une autre table. Une grande élève, debout, seule devant la fenêtre ouverte, brodait un mouchoir, le dos tourné au ciel. Elle leva les yeux, elle me regarda sans me voir. Elle continua de broder. Je me retins à mon pupitre. Isabelle rangeait ses livres. Pourtant, la brodeuse, c'était elle. Ma peau de pêche, la lumière de 7 heures du soir dans la cour de récréation, mon cerfeuil, la dentelle arachnéenne dans l'air, mes coffrets religieux, le feuillage des arbres avec les reposoirs de la brise. Qu'est-ce que nous ferons la nuit? Le soir se risque dans le jour, le soir m'apparaît dans un costume François Ier, le temps me caresse, mais je ne sais pas ce que nous ferons la nuit prochaine. J'entends les bruits, j'entends les voix de cette heure du soir qui flatte l'horizon pensif. C'est le gant de l'infini qui m'empoigne. Qu'est-ce que vous regardiez, Thérèse? Là-bas, les géraniums. Quoi encore? Le boulevard, la fenêtre, c'était vous. Donnez votre bras. Vous ne voulez pas? Le soir venait sur nous avec son manteau de velours qui s'arrêtait aux genoux. Je ne peux pas vous donner le bras. Nous nous ferons remarquer. Nous nous ferons prendre. Vous avez honte, dit Isabelle. Honte de quoi? Vous ne comprenez pas. Je suis prudente. Des élèves groupés nous épiaient. Isabelle me prit le bras. Imaginez que vous seriez renvoyée. Ce serait... Je ne pouvais pas achever. Je ne pouvais pas me voir morte. Je repris. Vous êtes la meilleure élève du collège. Vous ne seriez pas renvoyée. Imaginez que moi je le sois. Ce serait terrible, dit Isabelle. Je frissonnais. Courons, dit-elle. Les élèves, par groupe contre les murs, attendaient la cloche du dîner et nous offraient la cour. La cour fut à nous. Nous courions en nous tenant par la taille, nous déchirions avec notre front cette dentelle dans l'air, nous entendions le clapotis de nos cœurs dans la poussière. Des petits chevaux blancs chevauchaient dans nos seins. Les élèves, les surveillantes criaient et claquaient des mains. Elles nous encourageaient quand nous ralentissions. « plus vite, fermez les yeux, je conduis », dit Isabelle. Nous avions un mur allongé, nous serions seuls. « Vous ne courez pas assez vite. Oui, oui, fermez les yeux, j'obéis. » Ses lèvres frôlèrent mes lèvres. « J'ai peur de me tuer en tombant, dis-je. » J'ouvris les yeux, nous vivions. « Peur, je vous guide, dit-elle. Courons encore si vous voulez. » J'étais exténuée. « Ma femme, mon enfant, dit-elle. » Elle donnait et elle retenait les mots. Elle pouvait les serrer contre elle en me serrant. Je dépliais à moitié les doigts autour de sa taille, je comptais mon amour, ma femme, mon enfant. J'avais trois bagues de fiançailles aux trois doigts de la main. Une élève sonnait la cloche du dîner. « Sonne longtemps !» lui cria Isabelle. Le sonneur, noyé dans la sonorité, riait. « Encore un tour !» supplia Isabelle. « Il faut que je vous parle, il faut que je vous le dise !» Me parler ? Je croyais qu'il n'y aurait pas de nuit prochaine. Nous courions, mais j'étais transie, je pris les devants. « Je ne viendrai pas ?» La cloche sonnait à toute volée. « Vous viendrez cette nuit, dit Isabelle. » Il me semblait que le sonneur sonnait autrement et que notre mariage commençait à la sortie d'une église, quand celui des autres a été béni. C'est tellement à la fois littéraire, cinématographique, au cœur à la fois de la poésie et au cœur du corps. Enfin, on est avec elle dans chaque méandre de ses émotions écrites.
C'est pas rien. Vous découvrez ce texte-là à quel âge, Dominique Cabrera? Parce que l'entrée, alors je me souviens pas de ce que j'y ai lu, parce que je l'ai découvert là, moi, dans l'édition non censurée, mais... Oui. Ah non, l'entrée mais c'est... est extraordinairement sexuelle, magnifique.
Oui, totalement, oui, oui, oui.
Ça l'était
oui.
déjà.
Oui, 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 oui. Et ce qui se passe avec Marc après son autre amour et avec Cécile également. Et puis c'est un livre qui finit, même s'il était censuré, sur un avortement.
Ouais.
Et où après son avortement, elle est libre. Mmh. Ben oui, enfin c'était censuré, mais c'était très justement, c'est ce qui m'avait transporté, c'est que c'était extraordinairement raconté, enfin voilà, faire face à ces émotions physiques et morales, on pourrait dire. Et puis les écrire, les écrire surtout. Enfin, là, dans ce que j'ai essayé de vous lire, bien sûr, ce qui est raconté compte énormément, mais la manière de le raconter, c'est le style, l'écriture qui moi, me transporte encore quand je le lis aujourd'hui. Et justement, c'est là, je pense que tout le monde peut s'identifier, en fait. C'est tellement, je pourrais dire, exact. Vous me demandez l'effet que ça me fait quand je le découvre. Je crois que c'est aussi bien quand je découvre, d'ailleurs, Proust ou Nathalie Sarraute ou... C'est-à-dire que c'est un monde qui s'ouvre, ce sont des mondes qui s'ouvrent. C'est ça qui est extraordinaire quand j'entre dans la bibliothèque là, à Beauvais et qu'il y a tous ces livres. C'est que tous ces livres sont des mondes, c'est des mondes intérieurs à ouvrir. et c'est aussi des mondes sociaux, et c'est aussi des mondes d'émancipation. Là, Violette le Duc, c'est la poésie, et c'est l'émancipation, et c'est la liberté. Et Annie Ernaux, même chose. Mmh. Oui, c'est à la fois de la poésie et, je dirais, de la politique. C'est vraiment les deux... C'est la rencontre avec des femmes remarquables. Et quand je les lis, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, ça donne une direction, en fait. C'est-à-dire, ça dit, c'est possible. C'est possible d'atteindre ce niveau de poésie, de liberté à l'intérieur de vie entravée. Mmh. En lisant Annie Ernaux, comme, en plus, elle a édité, là, dans ce livre, là, Écrire la vie, elle a édité des fragments de son journal. Et on voit la lutte que c'est également, quoi. C'est, oui, une direction, des chemins, des forêts dans lesquelles on peut entrer, se perdre et se retrouver, quoi. C'est... La littérature, c'est une autre scène. Voilà, c'est une autre scène. D'ailleurs, le cinéma ou la poésie aussi. Il y a plusieurs scènes et on rencontre les personnes. C'est une chose, on peut les aimer. Et puis, on lit les livres. Et alors là, c'est encore autre chose. Encore autre chose, on atteint autre chose.
Vous avez aussi choisi Colette.
Oui, alors en fait, Colette, je dirais que c'est le numéro un des deux autres.
Ouais, bah ouais.
Et d'ailleurs, moi, j'ai lu Colette avant, avant Violette le Duc et avant Annie Ernaux. C'était dans cet ordre-là, Colette, Violette le Duc, Annie Ernaux. Puis il y a eu évidemment entre Virginia Woolf et compagnie, des tas d'autres que j'ai adorés et qui ont été fondamentales. Mais ce que j'ai aimé... dans Colette aussi, c'est que ma mère le lisait. Et justement, dans cet exil social qu'a représenté pour moi le fait de changer de milieu social, de changer de classe sociale, et en bonne partie par la littérature, puisque j'ai fait des études de lettres, et puis après de cinéma, mais d'abord par la littérature, Colette, c'était justement un livre qui était aussi un livre...
Un
trait d'union, voilà, vous avez trouvé le mot. C'était un trait d'union. Ma mère lisait Colette quand elle était... ma mère adorait lire et lit toujours énormément. Mais justement, quand elle lisait, sa mère lui disait « T'as rien de mieux à faire ?»« T'as rien de mieux à faire ?» C'est-à-dire, bon, tu devrais coudre, tu devrais faire autre chose que lire, quoi. Et donc, y a ce livre extraordinaire, d'ailleurs, que Colette a écrit sur sa famille... Donc le premier chapitre, c'est sur sa mère, ensuite sur son père, le capitaine, et sur ses frères, les sauvages. Et les trois parties sont magnifiques.
Ça s'appelle Sido.
Sido.
Ça apparaît en 1929, et j'ai découvert que Sido pour Sidonie, Sidonie Gabrielle Colette, j'imagine.
Voilà. Levé au jour, parfois devançant le jour, ma mère, accordée aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit, je demande « D'où vient le vent ?» À quoi l'on me répond « Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal, il fait vilain un temps de saison. » Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd, de signification, comme la double haleine divergente d'un monstre amical. À moins que je ne me replie haineusement devant la bise d'Est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. « Il va geler, la chatte danse, » disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi et elle captait des avertissements éoliens. « Écoute sur Moutier, » me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe, le massif de rosiers.
Elle levait l'index, se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements de l'Ouest par-dessus la clôture la plus basse. « Tu entends ? Rentre le fauteuil, rentre ton livre, ton chapeau, il pleut sur Moutier. » Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. Je tendais mes oreilles sur Moutier, de l'horizon venait un bruit d'égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido.
J'ai du mal à le lire, en fait. Je me rends compte que c'est parce que, en le lisant, j'entendais la voix de Colette.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il y a un enregistrement. Vous pouvez peut-être le trouver.
Où elle
il y a un enregistrement
lit,
où elle lit ce passage-là. Mmh. Et donc, je l'entends, là. Je l'entends, ça me revient. Et donc, elle le lit avec son accent bourguignon merveilleux. Et moi, je ne peux pas le faire, l'accent bourguignon, là. Et donc, ça me paraît complètement plat. Je ne peux pas le lire. Je ne peux pas lire Colette à haute voix. Voilà. Oh là là, c'est terrible. Qu'est-ce que je peux vous lire?
Ça vous intéresse, ça? Vous le faites, par ailleurs, d'écouter les auteurs, les autrices, que ce soit des archives quand ils sont morts,
oui.
Ou parler des textes et de la littérature?
Oui, j'adore, oui.
Au-delà des textes, quoi, la figure de celles et ceux qui écrivent, c'est un endroit qui vous intéresse, quoi?
Oui. Après, justement, ce que je vous disais, c'est vrai que c'est pas la même scène, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais bien sûr, ça m'intéresse parce que je m'identifie, parce que je cherche des comment vivre. Enfin, c'est pour ça que je lis des biographies. C'est bien sûr, oui. J'adore. Là, en ce moment, je lis des fragments qui ont été retrouvés des carnets de Berthe Morisot. Ça me passionne pour ça, en fait. C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? Comment les autres ont... comment est-ce qu'ils ont fait pour exister, pour créer, pour voilà, et c'est ce qui m'intéresse dans les livres autobiographiques. Il y a un auteur que j'aurais pu choisir là, qui est Charles Juillet, que j'aime énormément, qui m'a beaucoup apporté justement pour ça, en fait. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire du matériau de sa vie faire autre chose, œuvre, en fait. C'est-à-dire on n'est pas dans le témoignage. Et en même temps, on est aussi dans, au fond, témoigne d'avoir existé en écrivant quelque chose de magnifique, quoi. Et donc, Colette a été la première que j'ai lue, où j'ai senti ça, en fait, où j'ai senti ce travail sur sa propre vie.
Et ça fonctionne de lire dans les œuvres littéraires des autres comment ils ont fait, ça donne des pistes, Dominique Cabrera. Vous parliez tout à l'heure de monde dans lequel on entre, ou de forêt.
Ben oui, sûrement, oui, je pense, oui. Je ne sais pas trop comment, mais... Charles Juillet, à un moment, dit... on lui demande, et moi, on me l'a beaucoup demandé, à cause des films autobiographiques que j'ai faits, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il répond, pour en trouver d'autres, qu'il y en ait d'autres qui viennent vers moi. Moi, je dirais que peut-être ça fonctionne pour ranger, justement. Au fond, vous avez vu ma bibliothèque en désordre.
Elle n'est pas tant en désordre que ça, hein, je dois vous dire, pour en avoir visité quelques-unes, du coup.
D'accord.
Franchement, ça va. Ouais.
Non, mais si, je pense que écrire, c'est ça. C'est écrire ou faire un film, d'ailleurs. Hein, c'est peut-être, d'une certaine façon, ranger, enfin, créer un espace... habitable avec le chaos dans lequel on vit, quoi. Et pas rangé, justement. Rangé et pas rangé. Là, on a bien vu dans ces deux textes, là, de Violette Le Duc et Dany Arnaud, j'en ai d'autres, hein, avec des émotions, au fond, quasiment insupportables, faire quelque chose qui... Comment la violence est tenue à distance, voilà. La violence, le danger mortel de folie ou de mort... Et par l'écriture, par l'art, par le fait d'y travailler, ça tient l'insupportable à une certaine distance. Alors, c'est comme une danse, quoi. C'est trop près, un peu plus loin, trop près, un peu plus loin. Et on en fait quelque chose de du bonheur et de la difficulté de vivre. Là, il y a, justement, ça me fait penser à quelque chose, à Elsa Triolet, à ce livre, Le Cheval Blanc, là. Alors, Le Cheval Blanc, c'est un roman qu'Elsa Triolet a écrit en 1941. Et je ne sais pas pourquoi, j'adore ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui est tellement... Moi, je ne suis pas la seule à l'avoir aimé. Hein. Il n'est pas non plus très, très connu, tant connu que ça.
Moi, je ne le connaissais pas.
Et j'ai relu la préface, en fait, qu'a écrit Elsa Triolet.
Donc c'est, en fait, c'est le portrait d'un homme, Michel, merveilleux, quoi, un homme merveilleux. Et c'est un livre qui est plein de dangers, de destruction, et d'ailleurs il finit par la mort de Michel pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est extrêmement heureux. Alors, elles disent que c'est que ce livre... Voilà, Le Cheval Blanc est le plus autobiographique de mes romans. Je veux dire, le plus proche de ce que j'ai vu et senti du monde. Je ne pourrais ici donner les sources de ce roman une à une, comme je l'ai fait pour d'autres, car toute ma vie en est la source, et ce n'est pas d'une étincelle qu'il est né, mais des braises de tout ce qui a brûlé autour de moi. Tous ces personnages, tous ces destins sont imaginés, avec ce que l'on ramasse, de le long d'une existence dans les pièges des cinq sens et dans les cachettes de la mémoire. J'écrivais sans plan ni but défini, je montrais mes coquillages, mes voix, mes détresses, mes vieilles lettres, catastrophes anciennes et récentes, et je menais Michel d'aventure en aventure imaginaire, soucieuse seulement de la logique des événements. L'homme propose et les hasards disposent. Et en fait, c'est Michel vit de hasard en hasard. Et donc, elle a écrit ce livre pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, ouais, en effet, en 43, je vois là.
Voilà, chez De Noël. Et peut-être que c'est pour ça que ce livre est tellement fascinant, en fait, parce qu'il est plein de dangers et de bonheur. Donc, elle est avec Aragon. Nous vivions entre mer et fleurs, entre la mer au milieu de la terre et le marché aux fleurs. Nous vivions dans deux cellules voûtées, blanches, semblables à deux coquilles d'œufs, sauf que ces coquilles avaient l'épaisseur d'un mur de forteresse. Mais vous les connaissez peut-être, ces petites maisons à étages, quai des États-Unis à Nice. De la chambre, assise ou couchée, je ne voyais que la mer. Je n'entendais qu'elle, je l'entends encore, ce brideau qui englobe les bruits et les silences du monde. Ce n'est pas la mer souveraine qui m'empêchait de dormir, mais les camions qui amenaient alors sur le quai, au milieu de la nuit, les fleurs du marché, derrière le double rempart des maisonnettes. Je ne m'étais jamais habituée à ce trafic nocturne. Je ne dormais pas et cela n'avait aucune importance. J'étais bien, très bien, à l'intérieur de l'abri blanc où le plâtre neigeait sur nous, détaché par l'humidité marine. Dans cet immense calme bruyant, dans une réverbération sur l'eau, de la lune et du soleil, le bleu là-haut et les fleurs du marché à donation. Des douzaines et des douzaines d'œillets remplissaient des seaux sur le carrelage. Je me savais prise dans la souricière d'un monde bouleversé. Je vivais chaque malheur et chaque espoir d'un horizon à l'autre, et je portais en moi, envers et contre tout, des sentiments excessifs d'allégresse et de désespoir. C'est alors, en 41-42, que toute ma vie vécue jusque-là allait passer dans l'écriture, dans un roman, Le Cheval Blanc. J'écrivais tantôt dans mon lit côté mer, tantôt côté rue, à la table de la salle à manger, avec son petit poêle à sûre et un buffet de chêne sculpté de haut en bas, brillant, noir, qui nous servait de bibliothèque. Les murs étaient couverts d'épreuves, de photographies tirées en bleu, représentant un Paris d'avant la guerre de 70. Le hasard m'a jeté des photos de ma ville, les arbres de Paris, ses boulevards, ses quais. Nous sommes des absents de Paris, dans l'exil d'un paradis terrestre auquel secrètement nous préférons l'enfer de Paris, ses tourments, grand merci pour l'aubaine et l'azur et l'asile. Les lustres brillaient trop à minuit pour le spleen à la couleur des bleus d'imprimerie. J'écrivais, les feuilles se couvraient d'une dentelle noire. En fait, ce que j'essayais de lire, c'est les vers d'Aragon qu'elle cite à l'intérieur de son texte. Et moi, ce que je ressens, c'est le bonheur d'écrire. Et c'est ce qu'on sent dans le livre, en fait. Ce que j'aime, une des choses que j'adore dans ce livre également d'Elsa Triolet, c'est bien sûr cette figure extraordinaire de Michel qui, de hasard, en innocence et en génie, se fait une existence. Et aussi le travail littéraire qu'elle fait, comme elle le fait là dans la préface que j'ai lue, où elle inscrit des vers d'Aragon à l'intérieur de son texte, elle inscrit
des choses vraies, en fait, à l'intérieur de son texte. C'est-à-dire, c'est à la fois de la poésie, et puis un roman quasiment picaresque, et aussi des bouts, des personnages de la vie de 1940, quoi, qui sont autour d'elle à ce moment-là, quoi. C'est vraiment extraordinaire, ce livre. On le lira une autre fois.
Non, on a fait entendre. Alors, un peu d'eau et un peu de Sai-Shonagon.
Alors, Sai-Shonagon. Ben, alors, justement, là, c'est très ancien. Je ne sais plus où est le livre. Là, c'est des morceaux choisis, des notes de chevet.
Ah, ouais.
Alors, j'ai quelque part le livre entier. Mais quelqu'un me l'a offert, là. Et en fait, j'ai fait un film qui s'appelle « Demain et encore demain ». Et il était complètement inspiré des notes de chevet. Enfin, inspiré, plutôt pas complètement. Inspiré des notes de chevet. Et quand j'ai retrouvé, donc parce qu'on me l'a offert, ce livre, ça m'a vraiment ravie, quoi, de retrouver le plaisir que j'avais eu à me sentir proche de cette femme de l'an 1000 au Japon, qui était donc une suivante de l'impératrice et qui écrivait des notes de chevet qu'on a retrouvées et qui ont été publiées.
Il faut dire le titre qu'on a donné à ces notes de chevet.
Oui.
Parce que c'est quelque chose qui se répète dans l'ascension du texte. C'est « choses qui rendent heureux ». Et ensuite, c'est comme si on essayait de réduire ça, mais des listes de choses qui. Alors, vous avez choisi, Dominique Cabrera, de lire « Quelles choses qui ?»
Il y en a beaucoup. Il y en a une qui est pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a offert ce livre cette année. Parce que j'ai fait un film qui s'appelle « Le cinquième plan de la jetée », qui est à partir de la jetée de Chris Marker. Et donc, Chris Marker aimait beaucoup ce livre. Et il a en particulier cité les choses qui font battre le cœur. Après, donc, c'est revenu à mon esprit. Choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits. Passer devant un endroit où l'on fait jouer de petits enfants. Se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens. S'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Un bel homme, arrêtant sa voiture, dit quelques mots pour annoncer sa visite. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfums. Même quand personne ne nous voit, on se sent heureuse au fond du cœur. Une nuit où l'on attend quelqu'un. Tout à coup, on est surpris par le bruit de l'averse que le vent jette contre la maison. Choses qui font naître un doux souvenir du passé. Les roses trémières desséchées. Les objets qui servirent à la fête des poupées. Un petit morceau d'étoffe violette ou couleur de vigne qui vous rappelle la confection d'un costume et que l'on découvre dans un livre où il était resté pressé. Un jour de pluie où l'on s'ennuie, on retrouve les lettres d'un homme jadis aimé. Un éventail chauve-souris de l'an passé, une nuit où la lune est claire.
Parce que le premier texte que vous avez lu se termine sur une liste, comme ça, une accumulation. Annie Ernaux,
les années. Et
oui. C'est ainsi qu'on referme votre bibliothèque, Dominique Cabrera, avec une liste de choses qui.
Oui, et même d'ailleurs, vous m'avez parlé de la lune en arrivant.
Ouais.
Donc voilà, une fois de plus, le dieu hasard a été avec nous.
Ouais,
heureusement qu'il est là.
Ouais.
Parce que.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Oui, c'est peut-être une déesse, c'est peut-être la déesse hasard.
Qui sont deux.
C'est qui sont deux, exactement. Merci infiniment.
Ben, merci à vous.
Pour le montage, on fait une minute d'ambiance silencieuse.
J'adore le monde. Les eaux sont blancs. Le sang rouge. Quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières. Les films d'épouvante. Pour les pièces de monnaie. Il y a les fentes. J'adore le monde. Car il y a le temps. L'espace. Que les guerres éventuellement passent. Que ça se tasse. J'adore le monde. Et tout ce qui palpite.
Faire le générique.
Oui, on le fait dans la rue généralement.
Ah, dans la rue, ouais. D'accord. Allez-y.
Alors, reculage des vélos.
Peut-être que vous êtes une réincarnation de Seychelles, d'accord.
Allez là, je prends.
C'est ça en fait, c'est ce qu'on est en train de dire sans dire.
C'est pour ça que je suis arrivée en parlant de la lune.
Voilà. Ben, à bientôt alors, Marie.
Merci
beaucoup. Et... messieurs, à bientôt.
C'est
un plaisir de vous voir. Merci de votre attention.
Et c'est là qu'on va faire ce générique.
Bon, ben, je vous laisse.
Enfin, vous pouvez rester. Hein.
Bon, d'accord.
Alors, pour réécouter la bibliothèque de Dominique Cabrera, vous pouvez vous rendre sur la page du Book Club, franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous retrouverez toutes les références des textes qu'elle a lus et commentés. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission. Au son, à l'extérieur, c'était Lucien Lefebvre, à la réalisation, Vivien Demeyer, et au mixage, Romain Lenoir. Ça part pour le scout ?
J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit, y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, tout petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque, exactement juste à côté, pas en dessous. Pas n'importe où, à côté de la plaque, de couac en couac, d'échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break, n'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek. Le monde, faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec. Tout petit, petit, petit. Tout petit, tout petit, petit. Faut faire avec. Le monde. Avec. Tout petit, petit, tout petit, petit, petit.